est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Tout ce que tu feras sera dérisoire. Mais il est essentiel que tu le fasses. Gandhi. Bonjour. Suite et fin de l'entretien que m'a accordé au Conseil d'État où elle officie, à présent, l'ancienne ministre déléguée à la famille des gouvernements Hérault 1 et 2, Dominique Bertinotti, qui a notamment porté la loi dite du mariage pour tous aux côtés de Christiane Taubira. Historienne de formation, elle fut chargée de mission à l'Élysée entre 1992 et 1995, puis François Mitterrand la nomma mandataire des archives de ces deux septennats. Avec Dominique Bertinotti, nous parlons cette semaine de l'héritage politique de François Mitterrand, du droit d'inventaire demandé par Lionel Jospin et de la situation actuelle de la gauche. Vous entendrez une ancienne ministre parfois très critique sur ces sujets. Elle revient aussi sur son rôle dans la gestion des archives, ou plutôt, pardon, pour reprendre les mots de Dominique Bertinotti, sur son rôle dans la facilitation du travail historique des chercheurs. On parle d'histoire, d'héritage et de politique. Bref, on parle de choses absolument essentielles. Rencontre. Bonjour Dominique Bertinotti.
Bonjour.
Le 26 octobre 1916 à Jarnac, il y a 100 ans, François Mitterrand naissait. Le 8 janvier 1996 à Paris, il y a 20 ans, François Mitterrand mourait. Deux anniversaires, donc deux moments de commémoration en cette année 2016. Et une question au-delà du souvenir, au-delà de ce qui fait maintenant partie de notre histoire. Que reste-t-il aujourd'hui, Dominique Bertinotti, de l'héritage politique de François Mitterrand ?
Il reste beaucoup de choses. Que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas l'homme, la politique de gauche et tout cela, il reste beaucoup de choses. C'est l'ancrage de notre démocratie dans une démocratie moderne du 20e puis du 21e siècle. Ça, c'est un. On peut avoir des gouvernements de gauche, avoir des gouvernements de droite. En 81, ce n'était pas une évidence. Donc aujourd'hui, personne ne conteste qu'on peut avoir l'alternance. Ensuite, il y a eu des avancées sociales et sociétales, l'abolition de la peine de mort, les radios libres, la retraite à 60 ans, même une modernisation des fonctionnements et de la représentation dans les entreprises. Et puis, il y a eu aussi la réflexion européenne, ancrer la France dans quelque chose de plus grand que ses propres frontières, qu'est l'Europe, et comment construire cette Europe. Bon, tout n'a pas été réglé, on pourrait s'interroger sur la façon dont s'est fait cette construction. Mais l'idéal européen, la capacité à faire fonctionner des institutions, à composer aussi les périodes de cohabitation ont été regardées à la loupe. Et puis on s'est aperçu, par exemple, lors de la première cohabitation, que lorsque Jacques Chirac a voulu revenir sur un certain nombre d'avancées sociales, eh bien François Mitterrand a joué son rôle de défenseur de ces avancées sociales. Donc voilà, donc il y a vraiment, il y a des moments aussi très forts qui sont la poignée de main avec Helmut Kohl à Verdun. Hein. C'est toute une discussion sur la réconciliation hein, des peuples en Europe. Il y a le discours du Bundestag, il y a le discours à la Knesset, il y a Cancun. Donc il y a vraiment une... Et puis je me souviens aussi, c'est peut-être... plus anecdotique, mais nous avons célébré le bicentenaire de la Révolution française. C'était formidable.
Il y a des réalisations concrètes,
oui.
Il y a des mesures politiques, il y a une façon de faire de la politique, de changer les structures. On parle donc d'héritage politique, mais aussi de sélection. Et cette sélection, elle s'est opérée très tôt. Qu'avez-vous pensé quand, en 1995 déjà, Lionel Jospin parlait de droit d'inventaire ?
Je vais être très franche, c'est quelque chose que je n'ai jamais approuvé.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que c'est une expression...
Pourtant, l'inventaire, en tant qu'historienne, vous connaissez.
Exactement. Mais justement, peut-être parce que je connais bien ce qu'est la notion d'inventaire, pour moi, c'est une expression très notariale, où on voudrait bien prendre certaines choses et en laisser d'autres.
Vous êtes en train de dire que Lionel Jospin était trop notaire ?
Je veux dire surtout qu'à un moment donné, c'est une expérience, enfin, c'est plus qu'une expérience, ça a été des années de pouvoir, et que la maturité veut que l'on s'interroge sur un bilan avec ses plus et ses moins, mais qu'on assume le fait que grâce à François Mitterrand, eh bien la gauche peut progresser. Moi je trouve insuffisamment dans sa réflexion idéologique tout cela aujourd'hui, mais heureusement qu'il y a eu ces deux septennats, heureusement qu'il y a eu cette confrontation au pouvoir, y compris avec ses échecs.
Vous dites la gauche peut évoluer, notamment dans sa réflexion politique, peut-être insuffisamment aujourd'hui, justement, héritage contre droit d'inventaire. Que répondez-vous à ceux qui disent que d'un François à l'autre, de Mitterrand à Hollande, ben, la gauche, elle a bien changé ?
Ah non, je crois pas. Oui, la gauche... Pour répondre à votre question, il faudrait déjà que vous me donniez la définition de la gauche.
Oui.
Parce que quand on est de gauche, ça veut dire quoi ?
Alors on va partir de la vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être de gauche ?
À être de gauche, c'est être dans la capacité à vraiment traiter les inégalités. Mais quand on dit cela, c'est pas résumer cela à un discours et des mots creux, c'est vraiment parler des nouvelles inégalités et de cette capacité à associer le citoyen pour voir comment on peut réduire ces inégalités.
Alors, la définition étant posée, je repose ma question. Que dites-vous à ceux qui pensent que de Mitterrand à Hollande, la gauche a bien changé ?
Je peux partager quelquefois ce questionnement. Moi, j'ai eu la chance, vous l'avez rappelé, de conduire la loi pour le mariage pour tous, où là, je me trouve vraiment alors là, dans la filiation, hein, dans la filiation de la gauche. Il y a d'autres... éléments où effectivement on a des conceptions un peu flottantes aujourd'hui. Je pense à la laïcité, à ce que veut dire la modernisation de la démocratie, à la réforme des institutions, et puis aussi cette complexité que l'on a maintenant à parler au milieu populaire. Voilà, je trouve qu'on s'est un peu trop... comme je suis interviewée par des gens de Normal Sup, technocratisée.
Peut-être, effectivement. François Mitterrand, pour continuer sur cette notion d'héritage, vous parlez même de filiation, est-ce qu'il a aujourd'hui en politique une héritière, un héritier ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que je crois qu'il n'en voulait pas. C'est, si vous voulez, c'est la cohérence avec la liberté à laquelle il était attaché. Donc, à la fois, beaucoup peuvent se revendiquer de François Mitterrand, mais personne, je dis bien personne, ne peut se revendiquer de la globalité de François Mitterrand.
Alors, une petite théorie personnelle, et si l'héritière politique de François Mitterrand, c'était vous, Dominique Bertinotti ? Je m'explique. De 92 à 95, vous êtes chargé de mission, on l'a déjà dit, auprès de François Mitterrand à l'Élysée, et vous êtes notamment responsable du suivi des archives, ce qui n'est pas étonnant puisque vous êtes historienne de formation, agrégée et docteur. En 95, vous êtes nommé mandataire des archives présidentielles des deux septennats, et vous héritez de plus de 14 000 cartons dont la gestion vous incombe en collaboration avec les archives nationales. Une répartition se met rapidement en place,
Pour aller vite, disons les documents d'ordre public aux Archives nationales, la célèbre série AG, les documents d'ordre privé à l'Institut François Mitterrand. Mais dans le cas des archives publiques comme privées, votre aval en tant que mandataire est requis pour les dérogations. L'héritage politique de François Mitterrand, c'est donc bien vous qui le gérez.
Je ne gère pas l'héritage. Le terme de gestion ne me convient pas.
Parce que ça fait trop notaire ?
Peut-être parce que ça fait trop notaire. Moi, je suis facilitatrice à la demande de la volonté de François Mitterrand. C'est-à-dire, il y avait la volonté que l'histoire puisse se faire rapidement. François Mitterrand était très interrogatif sur la trace en histoire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous rentrez dans l'histoire ou vous ne rentrez pas dans l'histoire ?
Il avait peur de ne pas y rentrer ?
Je pense qu'il voulait laisser une trace. Il voulait laisser une trace. Après, personne n'est capable de dire quelle trace vous allez laisser dans l'histoire. Et lui ne voyait pas que les archives restent fermées, comme la loi l'autorise, pendant 60 ans. Donc, il m'a dit, facilitez le travail historique des chercheurs qui viendront se présenter à vous. Et ce qui est très intéressant, puisque maintenant j'ai un petit peu de recul dans cette pratique, c'est que les historiens étrangers ont été les premiers à s'emparer de cette formidable opportunité. Et c'est plutôt chez nous où on a encore une sorte de vieux débat, est-ce que de faire l'histoire de François Mitterrand, c'est de l'histoire, qui se pose encore même maintenant. Alors moi, je fais partie d'une génération qui a plaidé pour l'histoire du temps présent, où on estime que on ne peut pas laisser qu'aux journalistes le soin de faire l'histoire. Et les historiens français qui sont sur la défensive, je veux dire, à un moment donné, c'est une source extraordinaire. Ils peuvent la confronter à toutes les autres sources qu'ils veulent. Donc voilà, donc je ne gère pas un héritage. Je facilite des travaux historiques, la réalisation de travaux historiques.
Mandataire, facilitatrice. Une question qui m'est venue en préparant cette émission, vous êtes historienne, qu'est-ce que ça fait quand tout d'un coup on passe presque de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on passe de la posture de celle qui demande à consulter des archives, pour une posture de l'historienne, à l'autre posture, celle qui accepte qu'on les consulte. Qu'est-ce que ça fait ?
Je vais être très honnête, ça fait rien parce que vous connaissez très bien justement le public qui va demander les consultations. Et je pense que ça, c'est aussi un des éléments qui a fait partie peut-être du choix de François Mitterrand. C'est cette connaissance de l'archive que nous pouvons avoir en tant qu'historien. Et donc, je sais très bien ceux qui veulent faire des recherches farfelues de ceux qui vont savoir que se plonger dans un carton, c'est long, ça peut être fastidieux, ça peut être décevant, mais ça peut être aussi extraordinaire. Il y a de beaux moments d'émotion.
Celle qui accepte donc, celle qui n'accepte pas, parfois.
Mais on le fait toujours sur des règles. D'abord, il y a une très, très belle collaboration avec les archives nationales. On le fait d'abord sur des règles qui sont des règles archivistiques. Quelquefois, oui, j'ai la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Quelquefois, j'estime qu'au regard des documents, non.
Alors justement, en préparant cette émission, j'ai retrouvé un article de L'Express de 1999, Dominique Bertinotti, dans lequel certains historiens, certains biographes se plaignaient de blocages, à l'époque nombreux, disait-il, pour accéder par dérogation aux archives de François Mitterrand, notamment un monsieur qui s'appelle Jacques Portevin, qui était alors président de l'Association des archivistes français, parlait de, je le cite, « privatisation déguisée d'archives publiques » et mettait alors en garde « comment ne pas craindre de voir réserver les documents aux seuls hagiographes. Aujourd'hui, la situation, elle a changé. On n'est plus dans des archives qui sont verrouillées.
Écoutez, de voir que par an, vous avez à peu près 6 000, je le dis de mémoire comme ça, 6 000 dossiers qui sont ouverts, que vous avez des historiens qui viennent des quatre coins du monde, que vous avez de plus en plus d'historiens quand même des universités françaises. Je veux dire, tout ça n'a plus lieu d'être. Ce sont des archives publiques. Publiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui disent cela, qu'ils aient la même exigence vis-à-vis des archives de De Gaulle, vis-à-vis des archives des présidents antérieurs. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a impulsé le mouvement, c'est-à-dire qui a exigé que toutes les archives produites à l'Élysée soient déposées aux archives nationales. Mais c'est un fonds privé, Giscard, tandis que dès le départ, le protocole signifie bien que le fonds des 14 000 cartons est un fonds public. Donc, qu'on lise les lois sur les archives, et on ne fait pas cela en fonction du client. C'est pas ça du tout. L'objet, c'est de faire des travaux d'histoire. Parce que c'est ça qui est intéressant, qui est éclairant.
C'est dit. Possibilité de dérogation et puis demande de déclassification aussi. Le 7 avril 2015, vous étiez présente en tant que mandataire, donc quand le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, a signé la décision portant déclassification des archives des documents de l'Élysée relatifs au Rwanda entre 1990 et 1995, période du tristement célèbre génocide, pour rappel. Les seuls massacres de 1994, essentiellement dirigés contre la minorité Tutsi, ont fait 800 000 morts en quelques mois. Pourquoi une telle décision de déclassification de ces documents ?
J'ai envie de dire, la société, le monde continue à évoluer. Et je vais prendre un autre exemple moins tendu, mais avant, le ministère de la Défense, dans la période de guerre froide, classifiait tout défense. Aujourd'hui, c'est terminé, il n'y a plus de mur. Depuis 1989, la donne internationale a été complètement bouleversée. Donc, il y a des documents qui ne méritent plus d'être classés confidentiels défense.
Et c'est le cas pour revenir au Rwanda, parce que ça fait 20 ans.
Ça a été une décision du président de la République, de François Hollande. En plus, c'est des documents, je crois, qui étaient en grande partie connus par beaucoup de monde. Voilà.
Archives, déclassification de ces archives, et puis histoire, on en parle depuis tout à l'heure. Et je le disais, vous êtes historienne de formation, votre thèse de troisième cycle, alors aujourd'hui on dirait plutôt mémoire de master, vous l'avez consacrée à l'émergence du monde des employés et des postiers dans les villes du 19e siècle, c'est vrai ?
Oui.
C'était un bon sujet de recherche ?
Oh, c'était l'époque où on commençait à introduire vraiment l'usage de l'informatique dans les recherches historiques. Or, j'avais des cordes de postier tout à fait conséquentes. Donc, voilà, je suis apparue comme étant capable de serrer des populations entières de postiers, de voir qui ils étaient, de voir la nature des qualités que leur supérieur hiérarchique requérait. Après, très honnêtement, puisqu'à l'époque il y avait encore thèse de troisième cycle, thèse d'État, j'ai renoncé à poursuivre là-dedans parce que bon, vous passez pas une vie sur l'univers des fonctionnaires.
Certainement. Et donc vous avez renoncé et vous avez commencé une thèse d'État sous la direction de René Raymond,
oui.
S'il vous plaît. Votre sujet de recherche était la vision de la France chez François Mitterrand,
oui.
De 45 à 80. Du coup, votre première rencontre avec François Mitterrand, c'était avant votre poste de chargé de mission à l'Élysée.
Oui.
C'est quand, en tant que chercheur, vous êtes venu réaliser des entretiens.
Oui, tout à fait.
Quel souvenir vous gardez, du coup, de votre première rencontre ?
J'avais quasiment exploré toutes les sources archivistiques. J'avais mené un certain nombre d'entretiens oraux. Et puis un de ses anciens conseillers m'a dit « mais il faudrait quand même aller interroger le principal intéressé ».
Et René Raymond vous y a poussé aussi.
Et René Raymond a dit « bah tentez, oui, bien sûr ». Donc à l'époque, on n'envoyait pas encore de lettres par ordinateur.
Ouais.
J'ai pris ma belle plume, « Monsieur le Président de la République », et j'ai été très étonnée d'avoir une réponse positive de son secrétariat qui m'a dit « bah voilà, vous pouvez venir tel jour, telle heure ». Discuter avec.
Et donc tel jour, telle heure, vous y êtes allé ?
J'y suis allé, très impressionné.
Ouais.
Parce que moi, je n'étais pas dans les cercles de pouvoir, donc aller voir le président de la République.
À l'Élysée.
À l'Élysée. J'étais jamais rentrée à l'Élysée auparavant, dans un cadre quand même très très solennel, et puis un personnage. Il n'avait pas besoin de parler haut et fort pour impressionner son monde. Donc voilà, j'ai eu ce premier entretien. J'avais préparé, tout comme vous, toute une série de questions. Sauf qu'avec François Mitterrand, ça ne se passe jamais comme vous avez envie que ça se passe. C'est-à-dire qu'au bout de trois quarts d'heure, une heure, il m'a dit « bon, on arrête là ». Et il m'avait parlé de son enfance, de sa période de captivité. Et moi, mon sujet commençait en 45. Et je me suis dit, j'ai posé aucune question sur la période 45. Et donc, il y a eu un grand moment de flottement chez moi. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir revenir ? Pas revenir.
Et vous avez pu ?
Et j'ai pu revenir. Et j'ai pu revenir. Et c'est comme ça que s'est fait l'ensemble de ces entretiens. Et puis, à un moment donné, bon, il m'a demandé en 92, effectivement, si je voulais travailler avec lui. Et du coup, je n'ai jamais sorti ma thèse.
C'est un regret ?
Non, parce que les deux sont étroitement liés. Aujourd'hui, je ne pourrais plus la sortir telle qu'elle. Ça n'aurait pas de sens.
Pourquoi ?
Parce que j'ai vu le personnage, je dirais, de l'intérieur. Donc, aujourd'hui, ce qui m'intéresserait plus, c'est d'avoir une lecture rétrospective et de mener quelque chose comme cela, d'avoir véritablement une lecture rétrospective sur le parcours de François Mitterrand, ce qu'il a pu incarner.
C'est un désir ou c'est un projet que vous avez envie de mener, ce que vous décrivez là ?
Pour l'instant, c'est un désir.
Alors pour revenir à cette première rencontre avec François Mitterrand, vous dites c'est difficile... On ne peut pas prévoir avec lui ? Il n'était pas facile à interroger, du coup ?
Il était maître de ses réponses, et les réponses n'étaient pas forcément en adéquation avec la question que vous aviez posée.
Et alors, quand on est historienne, chercheuse, c'est un bon sujet, François Mitterrand, un bon sujet d'étude ?
Oui, parce que je vais vous dire, c'est un homme d'une richesse extrême, et avec une complexité humaine tellement forte. L'historien, il faut toujours qu'il aille voir à côté s'il n'y a pas autre chose.
Bien sûr, confronté.
Voilà. Et bien, François Mitterrand, il fallait toujours aller au-delà. C'est un homme qui a un rapport à l'histoire très fort, très très fort. Et, quelquefois, il m'a prêté des ouvrages. Il y avait ce dialogue entre son action présente, son action passée. Bon, donc, même s'il ne répondait pas toujours à la question que j'avais prévue, il y avait toujours une telle richesse que c'était extraordinaire.
Alors, au terme de cette émission, je vous ai décrite comme historienne, comme mandataire des archives présidentielles, pas comme gestionnaire de l'héritage, on l'aura compris. En tant que tout cela, à la fois, Dominique Bertinotti, et pour reprendre le titre de cette émission, qu'est-ce qu'il est absolument essentiel de retenir de François Mitterrand ?
Qu'il a su catalyser toute une foule d'hommes et de femmes de gauche progressistes sur ce qui était un très beau slogan qui était « Changer la vie ». Et que ça démontre que sans idéal, sans une forme de part d'utopie, on ne peut pas faire de grandes et belles choses.
Merci Dominique Bertinotti. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro, pour une nouvelle rencontre avec une personnalité du monde de la culture sur Transistor. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.